France Culture.
Une altercation à la Maison-Blanche et un tremblement de terre géopolitique après l'humiliation de Volodymyr Zelensky par Donald Trump hier. Les Européens font bloc, réassurent leur soutien à l'Ukraine et accélèrent sur la nécessaire défense européenne face au risque d'abandon de l'allié américain. Une alliance historique mise à mal en quelques heures et un basculement géopolitique majeur. Nous y reviendrons avec notre invitée en longueur, Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie au sein du think tank Conseil européen pour les relations internationales. À quelques heures de la fin de la première phase de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, les négociations concernant la prochaine étape sont au point mort, ce qui inquiète les Gazaouis qui redoutent de voir l'aide humanitaire se tarir. Enfin, l'alerte rouge a été levée ce matin à La Réunion et le cyclone Garance s'éloigne, mais la pluie et les coulées de boue ont provoqué d'importants dégâts. Après la sidération provoquée par une scène d'une violence inouïe dans le bureau Oval à Washington hier soir, celle d'un président d'un pays en guerre contre la Russie depuis 3 ans, vilipendé pour ne pas avoir courbé les Chines face à l'allié américain, les Européens parlent d'une même voix et assurent leur soutien à Volodymyr Zelensky, lequel a donc refusé de céder aux exigences de Donald Trump, déterminé à signer un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens, mais sans apporter aucune garantie de soutien américain. Une scène qui a viré à la joute verbale devant les caméras et scotché le monde entier, provoquant un coup de massue chez les Européens. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz juge désormais nécessaire que l'Europe se prépare au pire scénario, celle d'une OTAN lâchée par les États-Unis. L'Allemagne, qui souhaite désormais bénéficier de la sécurité nucléaire que la France et le Royaume-Uni pourraient lui apporter. Emmanuel Macron s'est dit prêt à ouvrir la discussion sur une éventuelle future dissuasion nucléaire européenne. On va y revenir avec vous, Éric Bigala. Bonjour.
Bonjour, Julie.
Alors, la première conséquence, quasi immédiate, suite à cette altercation, eh bien, c'est l'aide militaire américaine à l'Ukraine qui pourrait cesser. Alors, d'abord, est-ce que les Européens, Éric, ont les capacités militaires pour épauler l'Ukraine sans les États-Unis?
Alors, les Européens, Julie, ont déjà commencé à mettre en œuvre une organisation, une politique, qui permette à l'Ukraine de s'armer beaucoup et très rapidement. Il s'agit de financer des usines d'armement en Ukraine, laquelle Ukraine est désormais capable de fabriquer très très rapidement nombre d'armements et d'équipements. Songez que l'Ukraine, par exemple, a été capable en 2024 d'assembler plus de 1 million de drones d'attaque. Et ces canons automoteurs Bodaval, c'est le petit frère du canon français César, sortent des chaînes de montage 2 fois plus vite que ce que peuvent faire les industriels européens. Mais alors tout ça, il faut le financer. Et c'est là où l'Europe dispose d'une manne évidente. Les avoirs russes gelés en Europe. Plus de 200 milliards d'euros russes dorment dans les banques européennes, principalement à Bruxelles. Il y aurait là de quoi aider substantiellement l'Ukraine dans son effort de guerre, sans toucher aux budgets européens.
Soutien à l'Ukraine dont il sera question, bien sûr, demain à Londres, lors d'un sommet consacré à la sécurité européenne, notamment sommet qui apparaît plus que jamais crucial. Mais est-ce qu'une défense européenne est possible sans les États-Unis, Eric?
Alors, sur le papier, oui, elle est parfaitement possible, mais en pratique, ce sera très très difficile à mettre en œuvre. À part quelques pays comme la France, la Suède ou la Finlande, qui disposent d'une armée construite de façon autonome, qui est quasi souveraine, la plupart des autres pays européens sont dépendants, notamment du matériel acheté aux Américains. Prenons les avions de combat, par exemple. Pratiquement tous les pays européens ont acheté du F-35 américain. Or, cet appareil, ultra sophistiqué, très complexe à maintenir en conditions opérationnelles, est totalement à la main des États-Unis. Il serait facile pour un président américain d'en interdire tout simplement l'usage aux Européens. Alors après, les Européens, notamment les Français, les Britanniques, les Allemands, mais aussi les Polonais, les Roumains ou les Baltes, ont appris à travailler ensemble, à coordonner leurs troupes et leurs opérations sur le terrain, sans nécessairement devoir faire appel à la machine de guerre américaine, même si celle-ci reste au cœur de l'organisation opérationnelle de l'alliance militaire qu'est l'OTAN.
Quid de la dissuasion, Eric? Peut-il y avoir une dissuasion nucléaire européenne?
Alors, vous l'avez mentionné, on en parle de plus en plus, simplement parce que les armes nucléaires qui sont en Europe sont des bombes américaines, d'ailleurs emportées par le fameux F-35. C'est la raison donnée par l'Allemagne pour avoir acheté ces appareils, les seuls à pouvoir tirer une bombe atomique américaine. La Belgique, l'Italie, les Pays-Bas sont dans le même cas. Mais si les États-Unis devaient se retirer du champ de bataille européen putatif, ça voudrait dire qu'il ne resterait en Europe que 2 pays dotés de l'arme nucléaire, la France et la Grande-Bretagne. Et on commence à sérieusement se poser la question, notamment en Allemagne, s'il ne serait pas temps que des rafales français armés de missiles nucléaires puissent venir se baser en Allemagne. Ce serait une simple posture, bien sûr, pas une menace, une posture véritablement européenne. Et dans la grammaire de la dissuasion nucléaire, tout est dans la posture.
Éric Bigala de la rédaction internationale de Radio France. Et bonjour Marie Dumoulin.
Bonjour.
Vous êtes directrice du programme Europe élargie au sein du think tank Conseil européen pour les relations internationales. On vit donc un moment de bascule historique dans la relation transatlantique, un renversement d'alliance en quelques semaines. Les Européens semblent comme abasourdis, pris de court. Comment vous expliquez ce revirement, Marie Dumoulin ?
Alors c'est un moment qui est effectivement très brutal pour les Européens et ce qu'on a vu hier était probablement sans précédent dans l'histoire diplomatique. Ça n'est pas non plus un moment qui est complètement inattendu. On avait depuis plusieurs années, en fait dès avant la première présidence de Trump, sous la présidence Obama, un processus de désengagement américain des questions de sécurité européenne. Ça avait été relativement inversé pendant la présidence Biden, mais on revient à cette tendance de long terme. On savait par ailleurs que Trump pourrait chercher à obtenir un accord de cessez-le-feu en mettant la pression sur l'Ukraine plutôt que sur la Russie. Mais ce qui rend ce moment particulièrement brutal pour les Européens, c'est en fait la séquence qu'on vient de vivre avec d'abord le discours du vice-président Vance à la conférence de Munich, puis ce vote à l'Assemblée générale des Nations unies au cours duquel les États-Unis ont voté aux côtés de la Russie contre les Européens sur une résolution en soutien à l'Ukraine, et puis donc la séquence qu'on a vue hier de tensions extrêmement fortes affichées devant le public entre le président américain et le président Zelensky. Tout ça donne l'impression de la fin d'une communauté notée de valeurs transatlantique, et c'est un moment qui est une remise en cause existentielle pour les Européens.
Est-ce qu'on assiste alors du coup à la fin de l'idée de l'Occident ? Ce n'est pas moi qui le dis, mais la députée européenne du parti Renew, Nathalie Loiseau, ce matin.
Alors, de manière plus immédiate, je pense que les Européens vont devoir se poser des questions sur la manière dont ils traitent les implications de cet épisode pour l'Ukraine. Ce qu'on a vu hier, c'est un Donald Trump qui semblait penser qu'il pouvait contrôler les choix des Ukrainiens et un président Zelensky qui, lui, cherchait à réaffirmer la souveraineté ukrainienne. En réalité, ce que les Américains peuvent faire, c'est réduire de manière drastique les options qui s'offrent aux Ukrainiens, mais in fine, le choix restera du côté des Ukrainiens. Et donc, ce que les Européens peuvent et doivent faire dans ce contexte, c'est essayer d'offrir d'autres options aux Ukrainiens, à la fois sur l'assistance militaire qu'ils peuvent ou non continuer à apporter aux Ukrainiens et sur les garanties de sécurité pour l'avenir de l'Ukraine. Et sur ces deux questions-là, il y a une vraie question sur les capacités des Européens à apporter des réponses. C'était évoqué dans votre sujet précédent. Ils ont des moyens, mais ils n'ont pas forcément les moyens de se substituer aux États-Unis.
Le monde libre a besoin d'un nouveau leader, c'est ce qu'exhorte la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaya Kallas. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de nos ambitions ?
Alors, on a certains moyens, on n'a pas tous les moyens. Encore une fois, les Européens ont apporté davantage d'assistance à l'Ukraine que les Américains au cours des derniers mois, mais ils ne pourront pas se substituer au retrait de l'assistance américaine. Et puis, il y a des capacités que les Européens ne maîtrisent pas et une question aussi de crédibilité vis-à-vis de la Russie. Le risque, en réalité, aujourd'hui, c'est que les Européens n'abordent ce moment en ordre dispersé en fonction de la lecture qu'ils vont faire de ce moment. Soit ils vont accorder la priorité au maintien du lien transatlantique parce qu'ils le perçoivent comme une garantie de leur propre sécurité. Et ils risquent à ce moment-là de lâcher l'Ukraine. Soit au contraire, ils accordent la priorité au fait de continuer à soutenir l'Ukraine parce que la souveraineté de ce pays est aussi un cas d'espèce pour leur propre souveraineté et parce qu'ils estiment que l'agression russe mérite qu'ils se mobilisent. À ce stade, je ne sais pas quelle réponse les différents Européens apporteront à cette question.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Marie Dumoulin. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Europe élargie au sein du think tank Conseil européen pour les relations internationales. Alors face à ce changement de pied américain et la menace que la Russie a fait peser sur les Européens, Marine Le Pen estime pour sa part que la dissuasion nucléaire française doit rester française. On ne peut pas la partager, a tranché la députée RN ce matin en visite au Salon de l'Agriculture. Selon elle, l'échange hier à la Maison-Blanche n'a rien d'extraordinaire. Ce sont juste deux dirigeants de nations qui défendent leurs intérêts nationaux. Tandis que sur le terrain de guerre, la Russie revendique la prise de deux villages dans la région orientale de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine ce matin. D'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie aurait lancé la nuit dernière près de 154 drones sur plusieurs régions du pays. Alors si le soutien américain à l'Ukraine est plus que jamais menacé, ce n'est pas le cas de celui apporté à Israël. Washington a approuvé hier la vente de munitions, de bulldozers et d'autres équipements pour un montant de 3 milliards de dollars à son pays allié. Après plus de 15 mois de guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, où en 6 semaines de trêve, l'aide humanitaire a pu entrer beaucoup plus largement. L'ONU a pu faire distribuer 70 000 tonnes de nourriture dans l'enclave, permettant ainsi à certains services de se remettre lentement en route. La prolongation du cessez-le-feu est une condition nécessaire pour soutenir les habitants. C'est un reportage sur Gaza qui reste inaccessible aux journalistes internationaux, signé Étienne Monin.
Pour se réinstaller dans son quartier quasiment ravagé au nord de la bande de Gaza, Issam Kassem a dû revenir avec le bois et le plastique de la tente sous laquelle il s'était réfugié plus au sud au moment des combats. Ce père de famille voit les effets de l'aide humanitaire, mais il n'en a pas véritablement profité.
Moi j'ai tout perdu, je n'ai plus de maison. Là je cherche une tente, je cherche un abri. On a reçu des choses avec la trêve, mais pas pour tout le monde. Moi je n'ai pas eu de nourriture, je n'ai pas de tente.
Malgré cette frustration, pendant les 6 semaines de cessez-le-feu, les ONG et l'ONU ont réussi à relancer un certain nombre de services, parmi lesquels l'éducation, explique Olga Cherevko de la coordination humanitaire pour l'ONU.
Il y a 165 écoles, des écoles publiques qui ont rouvert. Pour les enfants, bien sûr, c'est très très important d'avoir un endroit où aller pour apprendre et retrouver un semblant de normalité.
Mais Gaza reste sous perfusion, dit Antoine Renard, directeur du Programme alimentaire mondial pour la Palestine.
Vous n'avez pour l'instant deux gros problèmes au niveau des populations. Un, elles n'ont plus de revenus. Et deuxièmement, en plus de ça, vous avez un secteur privé qui est pratiquement inexistant.
Dans ce contexte, le maintien du cessez-le-feu reste donc vital pour les Gazaouis.
À Gaza, où l'inquiétude s'accroît. Donc, alors que la première phase de la trêve doit théoriquement s'achever ce soir, mais les négociations entre le Hamas et Israël concernant la prochaine étape est censée garantir la fin définitive de la guerre n'ont pas encore abouti à quelques heures de l'échéance. Un cessez-le-feu immédiat avec la Turquie, c'est ce qu'a annoncé jeudi Abdullah Öcalan, le chef et fondateur du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, appelant le groupe armé kurde à abandonner le combat et à s'auto-dissoudre au cours d'un congrès. Appel entendu par le PKK aujourd'hui qui salue un nouveau départ et demande à son leader emprisonné de guider et diriger ce congrès. À Ankara, les précisions d'Anand Loer.
Dans un long message en réponse à l'appel d'Abdullah Öcalan, le PKK annonce un cessez-le-feu pour, je cite, ouvrir la voie à la réalisation du projet de son fondateur. C'était prévisible, tout comme l'était le fait que dans le même message, le mouvement pose des conditions pour désarmer et se dissoudre. Le PKK assure être entièrement d'accord avec le contenu de l'appel. Il se dit prêt à organiser un congrès, comme le réclame son chef, mais il demande qu'Abdullah Öcalan guide et dirige lui-même ce congrès historique. Le leader Abdullah Öcalan doit pouvoir vivre et travailler en toute liberté physique et avoir des contacts sans entrave avec tous ceux qu'il souhaite, écrit le groupe armé kurde qui appelle l'État turc à rendre ces conditions possibles. Depuis 26 ans, Abdullah Öcalan purge une peine de prison à vie sur l'île d'Imralı, en mer de Marmara, dans un isolement quasi total. Le PKK réclame donc que l'État turc lui permette de communiquer avec toutes les composantes de l'organisation, à commencer par ses chefs militaires installés dans le nord de l'Irak. Ankara n'a rien promis publiquement à ce sujet.
Le passage du cyclone Garance à La Réunion a fait un quatrième mort. Un homme a été retrouvé mort ce matin, coincé sous un arbre à Saint-Denis. Après la levée de l'alerte rouge à 10h heure locale, les Réunionnais découvrent peu à peu l'ampleur des dégâts qui n'ont pas tant été causés par les vents, mais par la pluie et les coulées de boue, notamment sur la côte ouest de l'île. Reportage à Saint-Leu de Lola Fourmi.
Le point d'intérêt du jour, c'est cette route à l'entrée nord de Saint-Leu qui s'est tout bonnement affaissée. Les habitants sont venus observer, impressionnés comme Hassan.
Par curiosité, j'essaie de comprendre comment ça s'est affaissé. C'est juste ça, c'est bizarre, c'est étonnant. C'est un mystère, mais moi je suis habitué à la pêche. Et savoir quand la route va dégager, parce que là il y a des capucins qui vont monter bientôt. Et là avec la boue, là c'est bon maintenant.
Un peu plus haut, dans le quartier Boîte aux Lettres, l'eau a pénétré plusieurs maisons. Adélaïde est là depuis 45 ans et elle a rarement vu ça.
Tout ça a été raviné, hein. Vous voyez pas comment c'est blanc là. Tout ça a été raviné et de l'eau est coulée, entrée dans la maison partout. Là c'est pareil. On a épongé, on a tiré de l'eau. Mais maintenant, ça va.
En ville, chaussures de baignade aux pieds, Ange et toute l'équipe de la boulangerie Copain s'activent après l'inondation de la boutique.
Vous voyez, l'eau, elle est montée jusqu'à pratiquement 90 cm.
Vous êtes équipée pour nettoyer?
Oui, Karcher, les raclettes, l'huile de coude. Donc voilà. On pensait qu'on aurait un peu d'eau, mais on ne pensait pas être inondé à l'intérieur de l'établissement jusqu'à plus de 90 cm d'eau, quoi. Mais l'élément de la nature est plus forte.
La nature plus forte qui interroge aussi certains, comment se préparer à des événements potentiellement de plus en plus violents à l'avenir.
Un reportage signé Lola Fourmi à La Réunion. La météo avec des nuages cet après-midi sur la chaîne des Pyrénées, près de la frontière italienne, et des nuages particulièrement tenaces sur le Languedoc-Roussillon et la région PACA, où quelques averses sont attendues. Partout ailleurs, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Soleil généreux vers la façade atlantique, comptez 6 à 10 degrés sur les deux tiers nord, entre 11 et 16 degrés plus au sud.
Vous écoutez France Culture.
Trump persiste et signe, il va taxer l'Europe.
Hervé Gardette.
De quoi fragiliser une industrie européenne d'autant plus vulnérable qu'elle manque de matières aussi essentielles que l'acier et les terres rares. Alors comment surmonter ce nouveau défi? Nous en débattrons en compagnie de Bertrand Badie, François Jemaine, Natacha Valla et Sylvain Kahn.
L'Esprit public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Assister à la naissance d'une créature de la mythologie, le golem. Amos Gitai revient à la colline avec sa troupe venue de tout le Moyen-Orient. Au travers du mythe, il interroge le rapport entre progrès et désastre, une parabole sur le sort des minorités pour le dialogue entre les peuples, dans un temps où il est si précieux. Golem d'Amos Gitai, du 4 mars au 3 avril, à la Colline Théâtre National à Paris. Un spectacle France Culture.
Midi 46 sur France Culture et vous retrouvez Sens Politique. Astrid de Villene reçoit Dominique de Villepin, une émission enregistrée jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître un invité pour décrypter avec lui son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Profession, diplomate. Tiré à quatre épingles, comme dans la chanson, on loue son élégance. Diplômé de l'ENA en 1980, promo Voltaire comme Ségolène Royal et François Hollande, il intègre le Quai d'Orsay à 27 ans, direction des affaires africaines. En 1984, premier poste à l'étranger, c'est à Washington qu'il est nommé. Et puis les ministères. À 40 ans, en 1993, il dirige le cabinet d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Un poste qu'il obtient 10 ans plus tard sous Jacques Chirac. Son visage, connu des Français, devient celui du non à la guerre en Irak et il s'impose comme le symbole de la diplomatie à la française. Premier ministre de 2005 à 2007, il gère le CPE, la crise des banlieues et la rivalité avec Nicolas Sarkozy. À l'intérieur, c'est son rival qui s'impose et qui gagne la présidentielle. 2011, rupture de banc, il quitte le parti gaulliste de sa jeunesse pour fonder la République solidaire et se lancer à la présidentielle de 2012. Échec, disparition des radars médiatiques. Traversée du désert, on le dit proche de la Chine et du Qatar. Ses activités de conseil ne sont pas publiées, polémique. Depuis le 7 octobre, l'élection de Donald Trump et la guerre en Ukraine, sa voix revient en force sur la scène nationale. Dans la droite ligne de la tradition de la politique arabe de la France sous Jacques Chirac, il maintient son cap malgré les oppositions. Il aime la liberté et soliloque. Il dit que devenir président, ça demande du temps. Cette semaine, il est arrivé triomphalement dans le baromètre des personnalités préférées des Français devançant Édouard Philippe. Alors, qu'a-t-il en tête et que veut-il pour notre vieux pays? Bonjour Dominique de Villepin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous écouter. Comme chaque samedi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Je ne sais pas si vous êtes promené cette semaine, Dominique de Villepin, sur le compte Instagram de Donald Trump. Il a publié une vidéo entièrement réalisée par intelligence artificielle de ce qu'il appelle Trump Gaza, la bande de Gaza qu'il aurait entièrement reconstruite en Riviera, avec une statue en or de lui à l'entrée, Elon Musk et Benjamin Netanyahou qui boivent des cocktails ou dansent sur la plage. Que vous inspire cette prise de position, si on peut l'appeler comme ça, du président américain ?
L'incompréhension croissante entre deux mondes, deux sociétés. Le simple fait d'imaginer une Riviera à Gaza au sortir de l'épreuve qu'a connue Gaza est une monstruosité. Et c'est surtout une méconnaissance complète de la culture de cette région, de la culture palestinienne, de l'identité palestinienne. Donc ça montre l'incapacité profonde de ceux qui dirigent le monde à pouvoir penser l'avenir à la place des peuples qu'ils seraient censés servir. Donc nous sommes devant quelque chose qui n'a pas d'avenir et qui nous conduira à une impasse. Il n'y a pas besoin d'être un grand géopoliticien pour le dire. Et c'est peut-être une des caractéristiques les plus intéressantes du monde d'aujourd'hui. C'est que nous savons très en avance ce qui va se passer. Nous voyons venir les crises, nous voyons venir les murs. Et c'est parce qu'il y a des automatismes. Il y a dans certaines visions, comme celle de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, il y a dans les visions de Donald Trump sur l'Ukraine ou sur le Proche-Orient, des automatismes qui enclenchent mécaniquement des catastrophes.
Vous dites...
Et nous pouvons les anticiper.
Vous dites qu'on peut avoir une vision des choses, qu'on peut anticiper, mais sur ce conflit entre Israël et Gaza, sur ce conflit au Proche-Orient, comment peut-on imaginer une suite, voire même une issue favorable, alors qu'il dure depuis toutes ces années ?
Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Et ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'avons pas le devoir de continuer à essayer. Quelles sont les leçons qu'on l'on peut tirer de l'expérience tragique de cette région. Et j'en reviens sur chaque sujet. C'est une conviction profonde. Si nous ne tirons pas les leçons de l'expérience, nous ne pouvons pas avancer. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer ? C'est que l'emploi de la force brute, de la force militaire, de façon récurrente depuis 1948, n'a jamais conduit à la stabilité, n'a jamais conduit à une sécurité durable et n'a jamais conduit à la paix. Et c'est donc qu'il faut s'appuyer sur des principes pour reconstruire cette région et, si possible, construire la paix. Et ça passe par une vision politique et, en l'occurrence, par ce qui constitue l'injustice de 1948. C'est la création d'un État palestinien. Vous savez, quand vous êtes malade, il faut faire baisser la température et il faut vous soigner. Il faut réparer cette région.